Amy Elliott June. 8 jours après. Je suis trempée à cause des bateaux gonflables. On en a eu plus que pour nos $5 parce que les deux adolescentes abruties par le soleil préféraient feuilleter leur magazine People et fumer des cigarettes qu'essayer de nous faire sortir de l'eau. Alors nous avons passé une bonne demi-heure sur nos bateaux propulsés par des moteurs de tondeuse à nous rentrer dedans et à prendre des virages serrés. Puis on en a eu marre et on est parti de notre plein gré. Greta, Jeff et moi. Une équipe insolite, dans un endroit peu familier. Greta et Jeff sont devenus très amis en l'espace d'une journée. Ça va vite ici, vu qu'il n'y a rien d'autre à faire. Je pense que Greta se demande si elle va faire rentrer Jeff dans la procession de ses choix désastreux de compagnons. Jeff serait content. Il préfère Greta. Elle est beaucoup plus belle que moi, pour l'heure, dans ce décor. Une beauté un peu vulgaire. Elle porte un haut de bikini et un short en jean, avec un chemisier enfoncé dans sa poche arrière pour quand elle veut rentrer dans une boutique. T-shirt, gravure sur bois, cailloux décoratifs, ou un restaurant, burger, grillade, caramel. Elle veut qu'on se fasse prendre en photo dans un décor western, mais il n'en est pas question. Et pas seulement parce que je n'ai pas envie de mettre un chapeau plein de poux des plouques du coin. Finalement, nous décidons de faire quelques parties sur un golf miniature décrépit. Le gazon artificiel s'en va par touffes, et les alligators et les moulins mécaniques sont immobiles. Jeff se charge de les animer. Il fait tourner le moulin. Il ouvre et referme les mâchoires de l'alligator. Certains des trous sont tout simplement impraticables. Le gazon est roulé comme un tapis, la ferme avec son tentant trou de souris s'est effondrée sur elle-même. Nous avançons entre les trajectoires sans ordre particulier. Personne ne prend la peine de compter les points. Cela aurait agacé l'ancienne Amy au plus haut point. Le côté désordonné, vain de tout ça. Mais j'apprends à me laisser porter, et j'y arrive fort bien. Je suis la championne du désœuvrement, la reine de la procrastination. La meneuse d'un gang de jeunes cœurs brisés qui s'ébattent dans ce parc d'attractions solitaires, blessés par la trahison d'un être cher. Je surprends Jeff, cocu, divorcé, problème de garde d'enfant, à plisser le front lorsque nous passons devant un testeur d'amour. Serrez la poignée métallique et vous verrez la température s'élever de juste une passade à l'amour de votre vie. Cette singulière équation, plus on serre fort, plus on se rapproche de l'amour vrai, me rappelle la pauvre Greta, avec tous les coups qu'elle a pris, qui pose souvent son pouce sur l'hématome qu'elle a sur sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un bouton qu'elle pourrait enfoncer. « À toi !» me dit Greta. Elle essuie sa balle sur son short. Ça fait 2 fois qu'elle tombe dans la flaque d'eau croupie. Je me mets en position, lève 1 ou 2 fois mon club, puis expédie ma balle rouge vif, droit dans l'ouverture de la volière. Elle disparaît un instant, puis ressort d'un creux et va se ficher dans le trou. Elle disparaît, elle réapparaît. Une vague d'angoisse me saisit. Tout réapparaît à un moment ou à un autre. Même moi. Je m'angoisse à l'idée que mon plan a changé. Je n'ai varié dans mon plan qu'à 2 reprises, jusque-là. D'abord le revolver. Je devais me procurer un revolver. Et le matin de ma disparition, je me serais tiré dessus. Pas un point vital, un mollet ou un poignet. J'aurais laissé une balle couverte de ma chair et de mon sang. Il y a eu une lutte. Amy a reçu une balle. Mais j'ai réalisé que c'était un peu trop viril, même pour moi. Ça allait me faire mal pendant des semaines. Or, je n'aime pas la douleur. Ma coupure au bras va mieux, merci beaucoup. Mais l'idée du revolver me plaisait toujours. Ça faisait un MacGuffin sympa. Pas on a tiré sur Amy, mais Amy avait peur. Alors je me suis pomponnée et je suis allée au centre commercial le jour de la Saint-Valentin, histoire de marquer les esprits. Je n'ai pas pu en trouver un. Mais ce n'était pas bien grave étant donné que mon plan avait changé. L'autre changement est nettement plus extrême. J'ai décidé que je ne vais pas mourir. J'ai la discipline nécessaire pour me tuer, mais je ne peux pas encaisser l'injustice. Ce n'est pas juste que je sois obligée de mourir. De mourir vraiment. Je n'en ai pas envie. Je n'ai rien fait de mal, moi. Le problème maintenant, cela dit, c'est l'argent. C'est tellement ridicule que ce soit l'argent, justement, qui me pose problème. À moi. Mais je n'ai qu'une somme limitée. 9 132 $, pour l'instant. Il va m'en falloir davantage. Ce matin, je suis allée bavarder avec Dorothy, comme toujours munie d'un mouchoir, afin de ne pas laisser d'empreinte digitale. Je lui ai dit qu'il était à ma grand-mère. Je tâche de lui donner l'impression d'une fortune familiale dilapidée, très blanche du bois. Je me suis appuyée contre son bureau tandis qu'elle me parlait, avec force détails bureaucratiques, d'un anticoagulant qu'elle ne pouvait pas se payer. Cette femme est une encyclopédie des inégalités en matière de pharmacie. Et j'ai dit, pour tâter le terrain, « Je vois très bien ce que tu veux dire. Je ne sais même pas comment je vais trouver de quoi payer le loyer d'ici à une semaine ou deux. » Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a jeté un coup d'œil à la télé, où passait un jeu dans lequel les gens hurlaient et criaient beaucoup. Elle me regardait avec une bienveillance de grand-mère. Elle allait sûrement me laisser rester, indéfiniment. La moitié des cabanes étaient vides. Cela ne ferait de mal à personne. « Tu ferais mieux de trouver un boulot, alors, » a dit Dorothy, sans se détourner de la télé. Une candidate avait fait un mauvais choix. Le gros lot était perdu. Et un « waouh » surajouté venait souligner sa déception. Un boulot, quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme boulot dans le coin? Des ménages? Du babysitting? En gros, j'étais censée jouer les femmes au foyer contre salaire. Ça valait l'ironie d'un million de posters « Accroche-toi ». C'est vrai que même dans notre humble état du Missouri, je n'avais jamais eu besoin de faire vraiment attention à l'argent. Je ne pouvais pas m'acheter une voiture sur un coup de tête, mais je n'étais jamais obligée de penser aux trucs du quotidien, collectionner les bons de réduction, acheter les produits sans marque et connaître le cours exact du litre de lait. Mes parents n'avaient jamais pris la peine de m'apprendre tout ça et ne m'avaient jamais préparée au monde réel. Par exemple, lorsque Greta s'est plainte que l'épicerie de la Marina vendait le gallon de lait 5 $, j'ai sursauté, car le petit caissier me faisait toujours payer 10. J'avais bien pensé que c'était cher, mais il ne m'était pas venu à l'idée que ce petit ado boutonneux balançait des chiffres au hasard pour voir si j'allais casquer. Alors j'avais fait attention. Mais le budget que j'avais prévu, qui garantissait selon Internet de me permettre de tenir 6 mois, ne tient pas la route, c'est clair. Et moi non plus, du coup. Quand on en a eu marre de golfer, je gagne, bien sûr que je gagne. Je le sais parce que je compte les points dans ma tête. Nous allons au kiosque à hot dog, à côté pour déjeuner. Et je me glisse par derrière pour puiser dans ma ceinture portefeuille, sous ma chemise. Quand je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, je vois que Greta m'a suivie. Elle me surprend juste avant que je puisse ranger mon matériel. « Les sacs à main, tu connais pas, Mademoiselle Banane ?» me lance-t-elle. « Ça va être un problème constant. Un fuyard a besoin de beaucoup de liquide, mais par définition, un fuyard n'a nulle part où le cacher. » Heureusement, Greta n'insiste pas. Elle sait que nous sommes toutes deux des victimes dans cette histoire. Nous nous asseyons au soleil sur un banc de pique-nique en métal et mangeons nos hot-dogs, des petits pains blancs qui enveloppent des cylindres de phosphate et une sauce tellement verte qu'elle a l'air toxique. Et c'est peut-être la meilleure chose que j'ai jamais mangée, car je suis Amy la morte et je m'en fiche. « Devine ce que Jeff m'a trouvé dans sa cabane, » dit Greta. « Un autre livre par le type des chroniques martiennes. Ray Bradbury, » renchérit Jeff. Je corrige intérieurement. Bradbury. Ouais, c'est ça, la foire des ténèbres. C'est bien. Elle découpe bien ces derniers mots, comme si c'était la seule chose qu'il y avait à dire sur un livre. C'est bien ou c'est pas bien. Ça m'a plu ou ça m'a pas plu. Pas un mot sur l'écriture, les thèmes, les nuances, la structure. C'est bon ou c'est pas bon, c'est tout. Comme un hot dog. Je l'ai lu quand je suis arrivée ici, a dit Jeff. « C'est bien. Flippant. » Il me surprend à le regarder et fait une tête de lutin, yeux écarquillés et langue pendante. Il n'est pas mon genre. Sa barbe est trop rêche. Il fait des trucs suspects avec le poisson. Mais il n'est pas mal, séduisant. Ses yeux sont très chaleureux, pas comme les yeux bleus acier de Nick. Je me demande si ça me plairait de coucher avec lui. Une bonne partie de baise, lente, avec son corps pressé contre le mien et son souffle dans mon oreille, sa barbe rêche sur ma joue. Pas une baise solitaire comme avec Nick, quand nos corps se touchent à peine. À angle droit par derrière, en L par devant. Après quoi il sort du lit presque immédiatement pour aller prendre une douche, me laissant pantelante à la place humide qu'il a laissée. « T'as perdu ta langue ?» demande Jeff. Il ne m'appelle jamais par mon prénom. Comme pour bien montrer que nous savons tous deux que j'ai menti. Il dit la petite dame, ou beauté, ou toi. Je me demande comment il m'appellerait au lit. Bébé, peut-être. Je réfléchissais. « Oh » fait-il. Il sourit de nouveau. « Tu pensais à un garçon. Je le vois, » dit Greta. « Peut-être. » Je croyais qu'on se tenait à l'écart des salauds pendant un petit moment, qu'on s'occupait un peu de nos poules. Hier soir, après Helena Bott, j'étais trop excitée pour rentrer. Alors on a partagé un pack de 6 bières et imaginé notre vie recluse de seule fille hétéro dans la communauté lesbienne de la mère de Greta, à élever des poules et à suspendre le linge à sécher au soleil. Objet de la cour bienveillante, platonique, de femmes plus âgées aux doigts tordus et au rire indulgent. De Nîmes, velours côtelé et sabots, jamais besoin de s'en faire pour le maquillage, les poils ou les ongles. Notre tour de poitrine ou de hanche, et jamais besoin de faire semblant d'être la femme compréhensive, la petite amie encourageante qui adore tout ce que fait son homme. « Tous les mecs ne sont pas des salauds, » dit Jeff. Greta fait un bruit évasif.